Bonsoir, bonjour Adicias, comme vous voudrez, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie, avec à la réalisation notre ami Jean-Loire Zacfresse, et je le remercie parce que sans réalisation, pas d'émission au micro Christian Moreto, mais pas que, je salue mon complice Landy Sella aussi. Et puis l'indicatif est signé de Damien Moreto et nous avons un studio. Eh bien, et si demain les nicotinoïdes et tous ces poisons disparaissaient, les abeilles renaîtraient, et nous aussi sans doute. Et si demain la pollution lumineuse était atténuée, voire disparaissait, eh bien ce serait super. Et donc nous avons dans le studio Émilie Marceau qui est chargée de mission. Alors il y en a des missions. France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Bonjour.
Bonjour Christian.
Bienvenue chez nous.
Merci.
Et nous avons aussi dans le studio un ami que je connais depuis un certain nombre d'années maintenant, Olivier Fernandez, qui lui est le président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées.
Bonjour.
Bonjour. Et donc, c'est pour cela que nous allons parler d'écologie et d'écologie ce soir. Ou aujourd'hui, comme on voudra. Bonjour, bonsoir, Adicias. Donc, Esprit Occitanie, c'est sur www.espritoccitanie.fr pour tous les podcasts des émissions. Et donc, Émilie, il y a plein de choses sans doute sur le feu qui sont en train de mijoter à France Nature Environnement Midi-Pyrénées, et plus particulièrement donc l'affaire de ces pollutions lumineuses qui nous empêche de voir entre autres les étoiles.
Eh bien, tout à fait, justement. Donc là, c'est l'action du moment. On se mobilise vraiment très fortement depuis l'année dernière où on s'est rendu compte qu'il y avait plein de problèmes par rapport à la pollution lumineuse. On a été sensibiliser les commerçants qui allument leurs vitrines. On a fait des communiqués de presse. On a même fait un rappel à rentrer dans le droit chemin à l'État le mois dernier via France Nature Environnement Paris qui, du coup, c'est associé avec les fédérations membres pour dire à l'État, aïe aïe aïe, vous n'êtes pas très bon élève. Donc là, cette année, nous, on joue vraiment la grosse carte pour sensibiliser les collectivités, les commerçants, mais aussi les citoyens qui pourront devenir ambassadeurs de la nuit. Et on crée un projet qui a été sélectionné par la plateforme Mon Projet pour la Planète, qui est un projet financé potentiellement par l'État, et donc projet qui est soumis à vote citoyen. Donc si c'est quelque chose qui vous intrigue et qui vous intéresse, je vous invite à aller voter pour le projet Rendez-vous la nuit, qui du coup permettra de faire avancer la problématique de la pollution lumineuse.
D'accord. Alors comment fait-on pour aller voter ?
Eh bien, comment fait-on ? Tout simplement sur le site Mon Projet pour ma planète. On va chercher en Occitanie le projet Rendez-vous la nuit. Et vous allez voir que France Nature Environnement Midi-Pyrénées a proposé un projet assez conséquent. On espère qu'il va susciter l'attention des citoyens parce que forcément, le meilleur est celui qui aura le plus de votes. Et donc, on propose pas mal d'actions pour vraiment agir en conséquence, le but n'étant pas de plus éclairer, on ne va pas vivre dans le noir, hein, on n'est pas fou, mais de mieux éclairer parce que c'est vraiment un problème assez important, entre autres aussi sur notre santé, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'effets néfastes sur la santé des hommes, sur la biodiversité, sur l'astronomie, c'est un gouffre économique et bien sûr un gouffre énergétique.
Mais ça fait travailler les centrales nucléaires.
Ah, oh, mais oui, il faut qu'on travaille les centrales nucléaires.
Donc, risquons de disperser les déchets radioactifs un petit peu partout.
Mais oui, vous avez raison. C'est vrai qu'il faut quand même qu'elles fonctionnent, ces centrales. Elles sont là.
Ah oui. Sinon, ça n'irait pas. Non, ceci dit, plus sérieusement, donc France Nature Environnement Midi-Pyrénées, comment se porte-t-elle ?
Eh bien, France Nature Environnement Midi-Pyrénées va plutôt bien. Elle est toujours fédération régionale de France Nature Environnement. Pour le moment, encore région Midi-Pyrénées, mais bientôt Occitanie, on l'espère, avec un rapprochement de la fédération Languedoc-Roussillon. On a toujours nos associations membres qui sont très actives et qui proposent plein de choses en termes d'activités pour préserver l'environnement sur la région Midi-Pyrénées, ancienne région Midi-Pyrénées. Nous avons toujours notre service juridique qui part en veille de toutes les mauvaises actions qui sont faites sur le territoire et qui du coup part à la pêche des mauvais élèves. Et après, on continue de valoriser les bonnes pratiques environnementales. On propose plein d'ateliers, des repair cafés, des ateliers do it yourself, où toutes les personnes qui sont intéressées par ce genre d'atelier sont le bienvenu, bien sûr. Donc voilà, toutes ces infos-là sont sur notre site internet, les dates agenda, etc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez même venir nous voir à la Maison de l'Environnement, à côté du Grand Rond, on est à votre dispo.
Et alors, comment tu as fait pour tomber dans le chaudron de France Nature Environnement ?
Ouh, quelle histoire ! Quelle histoire, puisque moi, je suis venue à Toulouse par hasard, ayant travaillé 3 ans le Pas-de-Calais avant. Et étant arrivée à Toulouse, étant diplômée dans l'environnement, j'ai tapé sur Internet Environnement Toulouse, et là, bam, la Maison de l'Environnement. Donc j'ai été y poser mes pieds pour voir un peu ce qui s'y passait. Et donc j'ai fait 8 mois de bénévolat pour les associations Nature Midi-Pyrénées et France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Et puis une chose en entraînant une autre, et ben, on a réussi à trouver un entendement, j'ai créé mon poste, et puis me voilà embauchée depuis fin 2014.
Bon, très bien, donc ça veut dire que c'est le ministère de la Transition écologique qui finance le poste ?
Oui. Non.
Non, non, c'est la région, peut-être.
Oui, voilà, la région, l'Adréal, l'Agence de l'eau, parce qu'on a aussi un poste de chargé de mission eau qui synchronise toutes les associations qui vont travailler sur le bassin d'Ourgaronne sur les thématiques de l'eau, qui est une thématique très, on va dire, tendue en ce moment. Hein, vous savez tous, entre la sécheresse, la pollution, etc. Donc, on a besoin des sous de l'Agence de l'eau aussi pour travailler sur ce sujet. Et après, on peut avoir des financements plus ponctuels avec, par exemple, Nature et Découverte, qui est intéressé par nos projets sur le gaspillage alimentaire. On produit beaucoup d'outils pédagogiques, donc des expositions, des jeux, et ils sont en location ou à la vente. Donc, ça intéresse pas mal de public, et ça aussi, ça nous permet de mettre du beurre dans les épinards. Voilà.
Et est-ce que c'est facile de se faire entendre par tous les décideurs ? Parce qu'on a bien vu à Sivens que ce n'était pas aussi simple que cela. Et je crois que, sauf erreur de ma part, j'ai vu passer une information comme quoi il y avait eu une bataille juridique de gagner face au syndicat du Coteau de Gascogne, sauf erreur de ma part.
Et très très longue bataille qui n'est, on va dire, presque jamais terminée, hein, puisque la CACG continue de faire des projets un peu dévastateurs pour l'environnement ailleurs, hein, qu'à Sivens. Donc on est toujours un peu aux aguets. Après, nous, on est très favorable à la création de projets de territoire. On va vers les agriculteurs pour leur proposer de nouvelles techniques pour travailler plus en lien avec l'environnement, dans la préservation de leur milieu. Et on essaye vraiment de faire avancer cette cause pour qu'il n'y ait plus de situation Sivens bis. Ça serait bien. Et oui, non, nous ne sommes pas de djihadistes verts, comme on a pu entendre. Non, 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 on est gentils quand même.
Non, ça c'est pour marginaliser toutes les personnes qui portent une alternative.
Oui, un peu, oui, c'est sûr. Hein,
parce que ceux qui sont plutôt djihadistes, bien rouges dans la colère, je dirais que c'est un certain nombre de gens qui se promènent sur des tracteurs dont les roues dépassent le plafond du studio de cette radio, par exemple.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Donc voilà, simplement, ils essaient de retourner le dilemme et faire montrer les autres du doigt. Or, je me permets de faire du journalisme d'opinion et de dire que les dirigeants de la FNSEA sont tout sauf des paysans, des vrais, qui protègent la terre, qui préservent les sols, qui préservent la biodiversité quand ils envoient leurs troupes manifester pour utiliser les poisons.
On est bien d'accord. Et on en a parlé justement nous aussi l'année dernière avec l'appel du sol, qui a été une grosse opération de sensibilisation avec FNE National et People for Soil, qui est une association aussi, pour signer une énorme pétition, une ICE, une initiative citoyenne européenne, pour qu'enfin il y ait une loi qui existe pour préserver les sols, parce qu'il y en a sur l'eau, il y en a sur l'air, et toujours pas sur les sols. Or, le sol, c'est quand même le milieu qui contient la vie, qui nous permet d'avoir de la nourriture, etc. C'est là que l'eau s'écoule, et pourtant, il n'est toujours pas protégé, pas rien, zéro loi. Donc, du coup, il faudrait vraiment quelque chose qui se passe au point de vue européen, là, du coup, carrément. Et on essaye de faire bouger les choses, mais oui, comme tu disais tout à l'heure, les oreilles sont souvent bouchées quand on commence à parler d'environnement et de petites bêtes, et ouh là là, il y a un peu trop de polluants, et c'est un peu compliqué de se faire entendre parfois.
D'où l'existence de l'émission Ici Demain et de l'émission Aussi Traversée le vendredi matin. Je me retourne vers Olivier Fernandez, dont les médias courent tous après maintenant. Tant mieux, hein, Marc, si l'information passe. Mais alors, il y a de bonnes nouvelles au niveau des abeilles. Nous pouvons saluer d'ailleurs Delphine Bateau, qui est toujours élue, qui est une des ex-socialistes, enfin je ne sais pas si elle est toujours socialiste, mais qui s'est battue contre les nicotinoïdes, et le syndicat lui avait offert une ruche et puis une médaille d'or, je crois, de l'abeille. C'est quelqu'un qui a du gnaque et qui continue à se battre, et c'est tant mieux, et nous la saluons ici au passage. Mais alors que nous avons a priori un ministre écologiste au sein du gouvernement, il y a des drones qui devraient se balader, notamment au-dessus des vignes, pour balancer des pesticides. C'est pas terrible, ça.
Ce n'est pas terrible, effectivement, ce retour vers le futur proposé par des députés de la majorité, notamment par le président de la Commission économique de l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Moreau, qui est un agriculteur, et qui a fait voter d'autres amendements qui allaient dans le bon sens, puisqu'il y a eu 3 amendements qui nous ont concernés vendredi dernier. Le premier était d'obliger maintenant les commerciaux, et notamment la grande surface, de mettre l'origine des miels dans un pot de miel qui est vendu, pour que le consommateur puisse savoir s'il achète un miel français ou s'il achète un miel français à 10% et à 90% chinois. Et la seconde étape, qui n'est pas encore passée, mais on espère que ça va avancer, c'est qu'on puisse savoir dans le pot de miel si c'est un pot de miel ou si c'est un pot à base de miel, et puis coupé avec un mélange d'eau et de sucre, comme le marché du miel chinois en est spécialiste, puisqu'ils produisent 400 000 tonnes, mais en vendent 800 000 tonnes. Donc cet amendement est passé, c'est une très bonne chose. Second amendement à être passé, c'est l'interdiction de toute molécule se rapprochant aux néonicotinoïdes par leur mode d'action, puisque avec Delphine Bateau, notamment Gérard Bapt et Jean-Paul Chanteguet, on avait bataillé sur l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes, qui ont été votés à 2 voix près dans la loi biodiversité de 2016. L'interdiction de principe est prévue pour le 1er septembre 2018, mais des dérogations pourront être possibles jusqu'en 2020. On avait réussi à obtenir de Ségolène Royal, qui nous avait soutenu, que les dérogations devaient être signées par 3 ministres. Et les 3 ministres doivent donner leur accord. Il s'agit du ministre de l'Environnement, de la Santé et de l'Agriculture. Donc on a bon espoir que M. Hulot ne signe pas de dérogation. Mais comme l'industrie n'est jamais à manque d'imagination, après avoir tenté de remettre en cause par la voix de Stéphane Travert, notre ministre actuel de l'Agriculture, en juillet dernier, cette interdiction des néonicotinoïdes, eh bien, un amendement a été déposé par plusieurs députés de plusieurs bords politiques visant à permettre l'utilisation de drones pour utiliser les produits phytosanitaires et notamment ces néonicotinoïdes.
Pardon. Je ne sais pas. Quand tu parles de produits phytosanitaires, moi, ça me fait doucement sourire parce que c'est un terme employé, un vocabulaire volontaire, mais en fait, c'est ce sont des poisons.
Pesticides, oui. Voilà. Hein, oui,
c'est ça. C'est ça, plus clair, c'est plus juste, ça.
Voilà, on peut le dire comme ça.
Je le dirais comme ça.
Tout à fait.
Non, excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est vrai que quand on entend...
C'est le terme juridique actuel, c'est pour ça que je l'emploie. Mais
c'est le terme juridique, mais qui cache bien des choses. Parce que quand on parle de phytosanitaire, ça veut dire sanitaire, santé. Mais c'est pareil, moi je me demande si la ministre de la Santé n'est pas la ministre de la Maladie aussi, par rapport à ce qu'elle propose, notamment au niveau des vaccins. Bon, ceci dit, c'était une parenthèse, je te redonne la parole.
Donc cet amendement a été proposé par M. Moreau, suivi par 15 autres députés. Nous avons fait un communiqué qui a été largement relayé, qui s'appelle « Épandage aérien, retour vers le futur ». Car il y a de cela quelques années, en 2012, nous avons énormément bataillé dans la région avec le collectif anti-OGM, avec l'association Nature Midi-Pyrénées et puis avec France Nature Environnement Midi-Pyrénées qui est représentée ici par Émilie. Et nous avons essayé la concertation avec la préfecture. La concertation n'ayant pas abouti, nous avons attaqué le préfet de région au tribunal administratif. Et nous avons gagné ce procès face au préfet de la région. Procès que j'ai eu l'honneur de plaider face à la préfecture. Et donc, on a réussi ce combat qui était soi-disant perdu d'avance. Et puis, on a bataillé au niveau national avec notre syndicat national et puis avec l'ONG Génération Future pour faire interdire au niveau national et en Outre-mer ces épandages aériens de pesticides qui se faisaient par voie d'hélicoptère ou par voie d'avion. Donc, on a créé un collectif avec des médecins en Guadeloupe. Et puis, on a demandé à Stéphane Le Foll de mettre un terme, à l'époque ministre de l'Agriculture, à ce mode d'action qui était normalement en voie de disparition au niveau européen, puisqu'une directive de 2009 l'interdisait. Mais notre ancien ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, avait envoyé une note au préfet pour leur donner le cadre à suivre pour avoir des dérogations par rapport à l'interdiction proposée par l'Union européenne. Donc on a bataillé. Stéphane Le Foll a pris un arrêté qui visait à encadrer un peu plus les épandages aériens, mais à ne pas les interdire. On a donc attaqué l'arrêté de Stéphane Le Foll au Conseil d'État et on a gagné. Et donc ils ont été obligés de plier. Et depuis maintenant quelques années, les épandages aériens sont interdits en France. Donc on voit aujourd'hui ressortir ces épandages aériens avec une nouvelle technologie, avec le drone. Et donc, on s'alarme un petit peu de cette régression. Et comme nous l'avons dit, s'il y a des outils modernes, ces outils de demain ne doivent pas nous servir à utiliser les molécules d'hier. Donc oui, à l'utilisation de drones pour utiliser des trichogrammes, par exemple, qui sont des insectes qui servent à s'attaquer à la larve qui attaque le maïs, la pyrale. Donc ça a été valorisé par la coopérative agricole locale qui s'appelle Val de Gascogne. Donc ça, oui, pour l'utilisation des drones pour une lutte bio et intégrée. Par contre, pour l'utilisation de pesticides, nous sommes farouchement opposés.
Oui, merci pour ces précisions, Olivier Fernandez. Je rappelle que tu es donc le président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, que tu as des connaissances en droit, bien sûr. Et donc, ça sert beaucoup.
Ça peut servir.
Oui, énormément, même, je dirais. Donc, Émilie Marceau, donc chargée de mission. Alors, quelles sont tes missions, justement, à France Nature Environnement Midi-Pyrénées ? Plein de missions, en fait, tu ne sais plus.
Moi, je suis la chargée de mission couteau suisse, moi. Eh bien, plein de missions, parce que, du coup, dans le milieu associatif, il faut être multifonction, souvent. Donc, ma mission principale, c'est la valorisation des bonnes pratiques environnementales sur le territoire du coup d'Occitanie pour le coup. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va glaner toutes les belles initiatives, que ce soit du citoyen lambda jusqu'à certaines entreprises, start-up, collectivités, compagnies. Et le but du jeu, c'est de réaliser un petit flyer pour synthétiser un peu l'action et une vidéo, retour d'expérience interview, généralement de 5 minutes à peu près, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc pour essayer d'essaimer ces bonnes pratiques et d'inspirer un maximum de personnes pour faire de plus en plus de belles actions pour l'environnement. Et puis après, bah forcément, je m'occupe de la pollution lumineuse. Donc cette pollution lumineuse, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc ça c'est le sujet du moment. Je peux même en reparler, c'est formidable, mais agissons contre la pollution lumineuse, si vous saviez tout ce que ça peut faire comme mal. On vient de créer une exposition d'ailleurs, si vous voulez venir la voir, elle est à la Maison de l'Environnement pour le moment, donc il est possible pour le moment de venir s'apercevoir de tous les impacts de la pollution lumineuse sur notre environnement et sur notre santé et compagnie, mais aussi de découvrir un peu des solutions qui sont envisageables et aussi quelques bonnes pratiques qui sont mises en œuvre sur le territoire. Il faut savoir que Midi-Pyrénées, c'est le berceau français de l'étude de la pollution lumineuse et que nous avons quand même la première réserve internationale de ciel étoilé européenne, qui est la réserve du Pic du Midi sur notre territoire, dont on peut être très fier parce que c'est un super territoire. On a aussi le triangle noir du Quercy, qui est sur le parc des Causses du Quercy aussi, où on peut encore observer un ciel pratiquement sans pollution lumineuse. Donc c'est super chouette de pouvoir valoriser et de lutter contre la pollution lumineuse dans un territoire comme Midi-Pyrénées. Il y a vraiment un gros enjeu. Et puis, qu'est-ce que je fais aussi ? Mais je fais de la communication, je crée des outils visuels, je crée des expos, des jeux, des vidéos, plein de choses. Voilà, pour essayer de faire passer des messages autrement que par du papier, parce qu'on est quand même des écolos, hein, faut le dire. Donc on essaie de plus trop avoir de papier à distribuer aux gens, mais plutôt de... on est face à une génération interactive, donc ça Facebook et ça Twitter et compagnie. Donc on crée des outils qui s'adaptent aussi aux citoyens, à leur façon de chercher des informations. Donc on va créer des petites vidéos, des petits motion design qui sont des petits dessins animés pour essayer de faire passer nos messages autrement qu'avec un bout de papier.
D'accord. Quelquefois, le papier, s'il est recyclé, il peut malgré tout moins polluer que certains messages où il y a une tonne de documents à télécharger. Ou...
C'est pas faux. C'est pas faux. En termes de bilan carbone, c'est vrai que certains mails, ça peut, à force de s'envoyer avec des signatures et des liens intégrés, des images intégrées, c'est vrai que ça peut être aussi une source de pollution, j'avoue. Et c'est vrai que donner pas de nos vidéos à YouTube, c'est pas forcément non plus. Mais bon.
Oui, c'est effectivement un outil de communication aussi. Et il faut communiquer dans ce monde où la désinformation vient parfois de certains, et souvent de certains dirigeants de transnationales, voire de dirigeants gouvernementaux, etc. Donc il faut un contrepoids citoyen. Et c'est le cas donc de France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
C'est ça qui est important, en fait, c'est que les gens se sentent concernés par, par leur planète, en fait. On n'en a qu'une et elle se renouvelle pas si facilement que ça, et qu'on est en train de faire un peu n'importe quoi avec cette planète quand même, et que c'est de pire en pire. Et que ça fait quand même, c'est pas pour être alarmiste, hein, parce que ça sert à rien, même s'il faut l'être un peu quand même, de se rendre compte qu'on est en train de se dire qu'on sait plus trop comment on va traiter notre eau tellement elle est polluée, que notre air, oulala, n'en parlons pas, qu'on est tous avec la gorge qui gratte et les yeux qui pleurent parce qu'on est bourré de micropolluants dans l'atmosphère, que nos sols, n'en parlons pas, de toute façon, il y a tellement de pesticides phytosanitaires et compagnie que de toute façon, tous les micro-organismes sont en train de mourir. Oh. Et j'en passe à des meilleurs. Donc oui, je pense que maintenant ça devient simple d'agir. On a quand même de super outils pour expliquer aux gens comment on peut faire facilement sans se prendre trop la tête. Donc ça, c'est vraiment important. Et surtout, on a besoin en tant qu'association de bénévolat, de gens qui viennent avec toutes leurs idées et toute leur bonne volonté et qui nous propose des choses, qui nous aide à faire des actions. Par exemple, vendredi soir, entre 1h et 2h du matin, nous allons vérifier si les commerces qu'on a sensibilisés à la pollution lumineuse, donc qui doivent éteindre leurs vitrines, suite à un arrêté qui est passé en 2013, on a donc été les sensibiliser en septembre, et là, vendredi soir, on va vérifier qu'ils ont bien éteint. Parce que du coup, on leur a expliqué qu'ils étaient susceptibles d'avoir 750 € d'amende s'ils n'éteignaient pas leur vitrine. Donc on cherche des petites mains quand même, comme on dit, pour venir nous aider. Nous, on y va, on est là, on est toujours là. Hein. Mais s'il y a des gens qui ont envie de se mobiliser et qui n'ont pas peur de se coucher à 2h du matin vendredi soir, n'hésitez pas, venez nous voir.
Donc, ils ne se couchent pas vendredi soir, mais samedi matin, en fait.
Exactement. Hein,
c'est ça, à 2h.
Exactement. Mais on pourra peut-être voir des étoiles. Ah, mais à Toulouse, ça va être compliqué.
Ça risque d'être un peu compliqué. Surtout qu'ils ne prévoient pas forcément... le temps risque de changer, en plus. Mais ceci dit, il faut... Et comment fait-on, justement, pour contacter France Nature Environnement ?
C'est très simple. Soit sur notre site internet... Vous avez un onglet contact et là, vous avez notre email, notre téléphone, notre adresse. Vous pouvez utiliser tous ces moyens de communication. Vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, entre 9h et 18h, du lundi au jeudi et après le vendredi, c'est que le matin. Et puis voilà, sinon contact@fne-midi-pyrénées.fr. Et là, vous pouvez nous envoyer les mails, vous pouvez nous demander des infos, vous pouvez tout ce que vous voulez. On est à votre dispo, à votre écoute.
Merci Émilie Marceau, donc chargée de mission France Nature Environnement Midi-Pyrénées, et Olivier Fernandez, président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, qui a fait un passage aussi d'ailleurs à la FNE.
Tout à fait, dans le cadre d'un stage au service juridique. Il y a de ça quelques années avec Hervé Ourcade qui dirige ce service avec brio.
D'accord. Et pour que les abeilles se portent mieux, il faudrait qu'elles soient plus entendues, et donc les apiculteurs aussi, et forcément certaines citoyennes et citoyens qui sont en alerte. Parce que, puis, je ne sais pas, il y a des choses, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi veut-on à tout prix empoisonner les abeilles? Sinon, peut-être parce que moi, j'ai lu un certain nombre d'informations aussi, comme quoi ils ont trouvé de petits drones pour polliniser. C'est peut-être pour ça. Monsanto, Bayer, Syngenta, Limagrain et compagnie, ça y est, ils se disent on va se faire encore plus de fric.
Oui, petits drones qui viennent de l'anglais d'ailleurs, faux bourdon, c'est la traduction du mal de l'abeille, puisque le premier avion sans pilote a été fait en Angleterre à partir de l'avion le Queen Bee. Et comme l'avion sans pilote faisait plus de bruit et volait moins vite, ce qui est le cas du mâle chez les abeilles, on l'a appelé le faux bourdon, le drone. Donc oui, ironie de l'histoire, on voudrait remplacer maintenant nos faux bourdons par des faux bourdons mécaniques. Et il est vrai que les avancées scientifiques vont bon train et que le marché est estimé au moins à 152 milliards. C'est le service gratuit apporté par les abeilles. Donc il y a là la possibilité de monnayer un service qui nous est rendu gratuitement par la nature et qui intéresse certaines personnes. Et il est vrai que les États-Unis et le Japon sont les deux pays qui travaillent activement à cette technologie que l'on espère ne pas voir entrer en vigueur dans les pays et qu'à ce moment-là, le législateur fera le nécessaire pour pas qu'on remplace ce service gratuit parce que quand bien même ces robots pourraient arriver à polliniser, il n'est pas sûr que la pollinisation soit parfaite et qui ne déchire pas bien les pétales de fleurs, mais peut-être que les innovations à terme permettront d'avoir une pollinisation parfaite. Mais enfin, on pourrait se demander dans quel monde vivons-nous, puisque à partir de ce moment-là, on pourrait donc se passer de la nature qui faisait ça très bien, puisque l'abeille est là depuis des millions d'années, certainement, depuis 130 millions d'années. En tout cas, elle est datée de plus de 100 millions d'années, de par les ancêtres qu'on a retrouvés dans de l'ambre en Birmanie.
Ceci étant, a priori, ces drones-là ne pourront pas quand même fabriquer le miel.
Ah non, ça, le miel, ils ne pourront pas le fabriquer. Il faudra faire une autre innovation qui sera de capter le nectar des fleurs, y ajouter des enzymes, l'évaporer et puis essayer d'en faire du miel. Oui, ça va être compliqué.
Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu es tombé dans le pot de miel?
Moi, je suis tombé dans le pot de miel parce que je n'ai pas eu le choix, figure-toi. Je suis né dans une famille d'apiculteurs. Donc, voilà, la famille était au départ installée à Fronton dans le Vin, a cofondé la cave coopérative de Fronton. Et puis, après les gelées importantes qui ont touché pas mal de vignes dans le Frontonnais, eh bien, la famille s'est lancée dans l'apiculture. Et la passion m'a piqué.
D'accord, voilà. Joli jeu de mots. Allez, piquer pour piquer, nous sommes fous. Mais c'est pour cela que nous avons envie d'entendre Marianne Colombier aussi, qui était venue dans le studio, dans l'émission Traversée, pour chanter en direct. Nous l'écoutons et je vous dis à tout de suite dans l'émission Et si demain sur Esprit Occitanie.
Elle n'a pas eu la vie facile. Une fleur du soleil en exil, Albe, quand ses faux parents changèrent de continent, elle espérait une autre ville, Albe, elle espérait une autre ville. Alors elle partit pour Paris, Albe, où elle se fit beaucoup d'amis, Albe, parmi des gens qu'on ne montre pas aux enfants. Elle s'est mise à gagner sa vie, Albe, elle s'est mise à gagner sa vie. De la pension à la prison, Albe, elle avait pour seul horizon, Albe, les rives infinies de ses rêves maudits, comme Rimbaud le vagabond. Comme Rimbaud le vagabond. Et de cavalcade en cavale, Albe, quand elle se brisa l'astragale, Albe, elle rencontra Julien qui sortait de prison. Ils s'aimèrent tant bien que mal, Albe, ils s'aimèrent tant bien que mal. Ensemble souvent ils rêvaient, Albe, de prendre une route traversière, Albe, mais au bout les attendait toujours la prison. Triste refrain de leur carrière, Al, triste refrain de leur carrière. C'était l'écriture. Sa force, c'était l'écriture. Elle n'a pas eu la vie facile. Anne, une fleur du soleil en exil. Anne, elle est morte à l'hôpital, une autre prison. En pleine gloire, en pleine idylle. Anne, en pleine gloire, en pleine idylle.
Marianne Colombier, Albe, Albertine Sarrazin, donc c'est une chanson qui lui est dédiée. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc arrêtez, n'essayez pas de tout remplacer par des drones, des robots, parce que bientôt il n'y aura plus d'humains sur cette planète. Alors arrêtez, mesdames, messieurs, là, qui dirigez le monde. Parce que, comme le dit Pierre Rabhi, vous vivez hors sol. Et donc, si vous n'avez plus de sol, eh bien, peut-être que votre esprit s'envolera, et votre chair aussi. Ceci étant, je vous donne deux informations. La CGT, c'est d'ailleurs dans une heure, organise ce soir à 18h30 à la Bourse du Travail, donc c'est place Saint-Sernin, un débat sur le thème « Ensemble pour le faire », le service public. Pourquoi les cheminots sont-ils en grève? Le statut, la dette, code du travail, statut, même combat pour une interrogation. Quel avenir pour la jeunesse? Quel service public pour demain? Oui, parce qu'à force de tout privatiser, vous allez finir par nous privatiser aussi complètement. Et donc, ça coûtera toujours beaucoup plus cher. Il n'y aura plus de solidarité. Il n'y aura peut-être que des actionnaires qui spéculeront sur nos vies. Donc la CGT organise ce soir, 18h30 à la Bourse du Travail, place Saint-Sernin, un débat donc sur le chemin de fer. Et puis, il y aura ce week-end, les 28 et 29 avril, au Pigeonnier de Campagne à Plaisance-du-Touche, c'est route de Vitarelle, une vente d'artisanat indien. Donc c'est organisé par l'Association pour le développement des villages d'Ushagram en Inde. Donc, c'est pour les aider. Cette association est présidée par Joël Loudeau, que je salue, qui fait partie de la bande d'Amoreto le vendredi matin dans l'émission Traversée. Donc, vente d'artisanat indien les 28 et 29 avril au Pigeonnier de Campagne à Plaisance-du-Touche. Donc, organisé par l'Association pour le développement des villages d'Ushagram en Inde. Et en Inde, reste-t-il des abeilles, Olivier ?
Qui a un comportement plus particulier, puisqu'elles sont capables de faire des migrations pour suivre les mielés et de faire 200 km, d'abandonner leur ruche pour aller s'installer là où il y a des fleurs qui se développent, ce qui n'est pas le cas de notre espèce européenne, Apis mellifera mellifera. Donc oui, il y a des abeilles, mais l'abeille est aussi en danger dans tout pays qui a les moyens d'acheter des molécules chimiques pour son agriculture. Et on connaît la révolution verte de l'Inde qui n'est pas sans laisser des séquelles sur les abeilles.
Oui, quand on parle de révolution verte en Europe, en France en particulier, en Inde, c'est finalement une révolution chimique, plutôt pour tuer.
Mais disons que le langage est toujours intéressant pour un communicant et les firmes aiment à manier ces termes comme les produits phytosanitaires, qui sont des produits, comme tu disais, pour soigner, alors qu'au départ, ce sont des pesticides et que dans cid, il y a caedere, qui veut dire tuer en latin. Donc on est plutôt sur cette origine qu'il faut conserver. On est sur des molécules qui sont là pour tuer des nuisibles sans distinction dans leur mode d'action.
Alors, si pour adhérer au syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, faut-il
Bienvenue.
Être apiculteur ?
Alors oui, pour adhérer au syndicat apiculteurs Midi-Pyrénées, étant donné que nous sommes un syndicat qui défend la profession des apiculteurs, il faut forcément être apiculteur. Aujourd'hui, on regroupe 500 adhérents apiculteurs. Et par contre, vous pouvez venir assister à des soirées mensuelles que l'on fait chaque mois à la mairie annexe de Saint-Martin-du-Touche, qui sont ouvertes au public chaque premier mercredi à 20h30. Où on va parler d'apiculture avec des scientifiques, avec des apiculteurs. Et puis, vous pouvez, en tant que particulier, eh bien, nous soutenir de deux manières. La première, c'est en nous faisant un don de façon occasionnelle ou de façon plus régulière, puisque l'association du Rucher École Apiculteur Midi-Pyrénées est reconnue d'intérêt général. Donc, c'est déductible de vos impôts. Et seconde possibilité, vous pouvez parrainer les ruches du Rucher École. Ça vous amène à venir deux fois rencontrer les apiculteurs et votre ruche au Rucher École, à repartir avec 12 pots de miel, et puis en même temps d'avoir deux après-midi où vous allez nous rencontrer et où on va pouvoir vous évoquer nos sujets d'actualité de l'année et vous faire participer à nos brainstorming sur comment sauver l'abeille au niveau Midi-Pyrénées et au niveau plus national ou européen.
Et est-ce que justement en Midi-Pyrénées, enfin maintenant la région qui s'est étendue, qui s'appelle région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, est-ce qu'il y a une oreille attentive de la part d'un certain nombre d'élus ?
Bien sûr, le sujet des abeilles étant de plus en plus médiatisé, nous avons quand même aujourd'hui la chance d'avoir la plupart des gens qui ont entendu parler de la problématique des abeilles. Tout le monde sait que les pesticides ne sont pas très bons pour les abeilles, à minima. Et donc, on a des soutiens de tous bords politiques. Et par exemple, sur le communiqué que l'on a fait sur les drones, nous avons eu des soutiens qui sont allés de sénateurs Les Républicains, en passant par, bien sûr, donc Delphine Bateau, avec qui nous travaillons régulièrement, avec ensuite des élus du Parti Socialiste, des élus de La République En Marche, notamment l'ensemble des députés bretons que je salue, et aussi Alexis Corbière, qui a fait une question au gouvernement, à Nicolas Hulot, pour lui demander s'il comptait s'impliquer à nos côtés.
Oui, et d'ailleurs, nous en avons discuté un petit peu avant de prendre l'antenne, et il a fait une remarque qui est assez judicieuse d'ailleurs.
Il a fait une remarque judicieuse, je ne sais pas, ça c'est un jugement de valeur. Il a fait une remarque politique, effectivement, dans son tweet. Il a demandé à M. Hulot si, plutôt que de s'occuper des riches, le gouvernement ne pouvait pas s'occuper des ruches. Ouais. Donc je lui laisse la paternité de la formule. Ceci étant, nous sommes contents de voir que plusieurs élus de bords politiques différents nous soutiennent et que pour la première fois, le syndicat apiculteur Midi-Pyrénées est cité officiellement dans une question au gouvernement publiée sur le site de l'Assemblée nationale. Donc enfin, notre travail est reconnu par les élus de notre pays, puisque ça fait de nombreuses années qu'on envoie des communiqués, que souvent on n'a pas de réponse. Là, voilà, le gouvernement va devoir demain matin répondre à cette question, puisqu'on a aussi indiqué sur ce communiqué qu'il y avait des pertes catastrophiques qui continuent chaque année. Il y a une vidéo d'un apiculteur breton qui tourne pas mal sur Facebook, voilà, qui montre qu'il a beaucoup de pertes, et des pertes qui ne sont pas liées aux maladies ou une mauvaise pratique de l'apiculture, mais plutôt des pertes liées à une action directe ou indirecte des pesticides. En tout cas, nous l'incriminons aux pesticides, parce que nous ne sommes pas scientifiques, donc on ne peut pas vous le certifiez, à part de faire un appel à dons qui nous coûterait 1 000 à 1 500 euros par ruche par analyse pour essayer de trouver quelque chose, ce qui est assez compliqué. Par contre, on sait que le taux de mortalité normal des ruches est de 3 à 5% normalement, qu'aujourd'hui il est de 35% au niveau national et que dans notre région, par exemple agricole, nous sommes de 40 à 60% et personnellement, cette année, j'ai subi 80% de pertes, ce qui m'a fait passer d'apiculteur semi-professionnel à apiculteur amateur. Donc je trouve ça un peu drôle de voir qu'en ayant un niveau d'apiculture de plus de 20 ans de pratique, eh bien on peut redevenir amateur de par l'inaction de nos pouvoirs publics à prendre en compte les politiques environnementales.
C'est dit et c'est bien dit. Et il fallait le dire. Et récemment, j'avais reçu d'ailleurs un des membres du syndicat des apiculteurs, puisque le conseil départemental a accepté d'installer 4 ruches sur le toit de son établissement.
Tout à fait. Le conseil départemental a donc signé un partenariat avec le syndicat où nous avons installé 4 ruches. Alors un petit mot sur l'installation des ruches en ville. C'est utile et ça ne sert à rien. Je m'explique, l'installation de ruches en ville est très à la mode. Ça ne sert pas à sauver les abeilles, il faut que les auditeurs et les auditrices le sachent. Non, ce sont des actions que nous avons développées il y a quelques années au niveau national afin de pouvoir toucher les médias, le grand public et de faire des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. Donc ces actions continuent avec les syndicats et les associations d'apiculteurs qui sont présentes dans chaque département depuis plusieurs décennies ou des fois plusieurs siècles. Et ces actions sont très bien. Malheureusement, comme dans toute action qui peut avoir son utilité, eh bien de plus en plus de sociétés, même des sociétés qui produisent les produits phytosanitaires, des firmes, proposent ou créent des associations ou des sociétés pour faire ces installations de ruches et faire ce qu'on appelle un greenwashing. Alors autant vous dire que ces actions ne servent à rien, puisque quand on a monté ces programmes d'installation de ruches en ville, c'était pour la communication et pour avoir des rentrées financières de par les frais de procès que nous avions face à Bayer, Syngenta et BASF qui s'évaluaient à un peu plus d'un million d'euros. Donc voilà, toute action d'installation de ruches, elles sont faites par des associations et des syndicats départementaux. C'est très bien, je le dis en tant que secrétaire national des apiculteurs, je le soutiens. Après toute autre installation de particuliers, ça n'a aucune utilité si ce n'est avec une association qui va faire des actions pédagogiques autour de l'abeille. Il faut bien le rappeler. Et en ce qui concerne le conseil départemental, cette action d'installation de ruches a été menée. Pourquoi ? Parce que le conseil départemental, en son temps, nous a soutenus dans la campagne contre les épandages aériens par la voix de son président à l'époque, Pierre Izard, sur sollicitation du conseiller départemental Patrick Gimena, qui avait porté ce combat des épandages aériens au sein de l'hémicycle du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Oui, puisque Patrick Gimena avait été élu seul, d'ailleurs, élu conseiller départemental écologiste.
Voilà, et donc il avait fait partie des élus qui nous ont soutenus. Il a été très vite rejoint par un autre conseiller départemental qui est aujourd'hui vice-président du conseil départemental qui s'appelle Jean-Michel Fabre. Et tous deux ont été remerciés pour leurs actions sur cette problématique des épandages aériens en décembre 2016, puisqu'ils ont reçu l'abeille d'or de Yann Arthus Bertrand.
D'accord. Puisqu'effectivement, une pointure, il y a Delphine Bateau, mais Yann Arthus Bertrand fait partie aussi de ceux qui se bataillent et qui ont soutenu donc, ton action.
Et puis, action.
Mais c'est parce que tu l'as porté aussi que tu es très actif là-dedans, dans ce mouvement. Et c'est une pointure qui a ouvert d'ailleurs un lieu un peu particulier.
Tout à fait. Il a ouvert la fondation Good Planet, qui existait déjà en fait, mais qui faisait uniquement des actions sans avoir de vitrine pour accueillir le public. Et donc, avec la ville de Paris, il a hérité du château du préfet Haussmann pour une durée de 30 ans. Il l'a rénové, il en a fait un lieu d'éducation gratuit à l'environnement et bientôt à l'alimentation, puisqu'il va y avoir un pavillon autour de l'alimentation avec le cuisinier Alain Ducasse. Et donc, ce lieu a été inauguré en mai dernier. Nous avons eu la chance, au niveau du syndicat apiculteur Midi-Pyrénées, eh bien de représenter nos combats à Paris et devant les 15 000 visiteurs de la journée qui sont venus et qui ont pu venir à notre stand goûter les produits de la ruche et puis aussi entendre notre discours. Et ça a aussi bien concerné les Parisiennes et les Parisiens que des élus aussi en responsabilité, comme Jean-Louis Borloo, par exemple, ou comme François Hollande, qui venait pour son dernier déplacement de président de la République et qui a goûté du miel de Toulouse, puisqu'on lui a fait goûter du miel de l'hôtel d'Assesa, où nous avons fondé l'Académie de l'Abeille d'Or avec Yann Arthus Bertrand.
Merci pour toutes ces précisions, Olivier Fernandez. Donc, je rappelle que tu es le président du syndicat des apiculteurs Midi-Pyrénées, mais aussi secrétaire général des apiculteurs au niveau donc, de la France entière. Et, donc tu dois te déplacer un certain nombre de fois, je suppose.
Il m'arrive.
Et donc, Émilie Marceau, toi, tu es chargée de mission à France Nature Environnement Midi-Pyrénées. Et donc, comme l'a dit Olivier pour le syndicat des apiculteurs, si je cotise à la FNE, il y a une partie de ma cotisation qui peut être déduite des impôts.
Et oui, exactement. Nous aussi, on fait partie des associations, donc loi 1901 et compagnie, où donc, vous êtes exonérés d'impôts si vous faites des dons à nos associations. Donc, et oui, des fois, ça paraît pas grand-chose, mais nous, ça nous aide énormément. Énormément. Donc voilà, vous pouvez venir faire un tour. On est sur une plateforme en ligne qui s'appelle Hello Asso. Et donc vous pouvez faire un don en ligne directement, même pas besoin de sortir de chez vous. C'est formidable la technologie, finalement. mais voilà, du coup, vous pouvez venir faire un don. Donc tout pareil, soit ponctuel, soit plus fréquemment. On fait souvent aussi des appels à dons pour des projets en justice qu'on porte, donc du coup, qui sont là, pas du tout financé, puisque forcément, on ne va pas demander des financements pour des actions en justice, pour des gens qui font du mal à la nature. Donc là, c'est pareil, on fait souvent s'il y a des projets qui vous interpellent, qui sont sur votre territoire ou qui vous sensibilisent plus que d'autres. Je pense par exemple, en ce moment, à l'action qu'on mène contre le méthaniseur de Gramma dans le Lot. Donc voilà, qui est en train de polluer les eaux qui vont arriver bientôt à votre robinet si vous habitez dans ce coin-là. Donc vous pouvez nous soutenir justement en faisant un don, en signant une pétition qu'on a mis en ligne aussi pour éviter que ce genre de projet nous ruine notre santé et notre environnement.
Pourtant, quand on parle de méthanisation, nous pourrions nous dire « Ah ouais, mais c'est super, c'est de la récupération pour créer de l'énergie, mais ça dépend dans quelles conditions c'est fait. Si c'est de manière industrielle, ça dépasse.
Exactement.
Est-ce que c'est pas suivi ? Voilà. Parce que sur l'agro, je sais que c'est une association aussi bien implantée chez nous qui fait tout un travail là-dessus, mais peut-être que là, c'est pas le cas.
Et voilà, c'est là le problème, c'est qu'il y a méthaniseur et méthaniseur. C'est que là, pour le coup, c'est 45 000 tonnes de digesta. J'entends par digesta, attention aux oreilles sensibles, des carcasses, des excréments, des choses un peu, voilà, on va dire de la matière organique qui est récupérée pour être ensuite transformée dans ce méthaniseur et qui donnera donc ces fameux résidus qui sont ensuite épandus sur des champs, sur des milieux karstiques, qui sont des milieux calcaires très poreux. Et du coup, toute la cochonnerie, on va dire, s'infiltre directement dans les nappes souterraines, nappes qui sont utilisées comme captage d'eau potable. Donc il faut savoir que ce qui va se retrouver dans l'eau potable, c'est toutes les substances contenues dans ces fameux digestats. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que nous avons publiée sur notre page Facebook pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe sur ce méthaniseur. Et il faut savoir aussi que les déchets matières organiques sont récupérés jusqu'à plus de 120 km au-delà du lieu du méthaniseur. Donc ça rajoute en plus des camions qui vont prendre l'autoroute pour aller chercher des matières organiques pour les méthaniser. Et nous, ça nous paraît complètement absurde. On est pour la méthanisation de proximité, de la méthanisation intelligente et pas de la méthanisation qui va nous faire boire je ne sais quelle eau polluée par je ne sais quelle substance qui risque de nous faire beaucoup de mal.
Et alors quel est le porteur de ce projet ? C'est une transnationale encore ou c'est des personnes qui n'ont pas tout compris ou
ça a été, il me semble, pour ne pas dire de bêtises, hein, parce que c'est mon juriste qui s'occupe de tout ça, hein, c'est lui qui a la foi et la bonne parole là-dessus. Pour ne pas dire de bêtises, c'est un projet qui a été fait en collaboration avec plusieurs agriculteurs et compagnies pour essayer de revaloriser les déchets qu'ils produisent, puisque finalement la méthanisation, c'est à ça que ça sert, pour créer de la chaleur. Sauf que là, c'est un projet un peu surdimensionné et sur un site, là encore, on parle de sol, hein, du coup, sur un site très, très, très sensible que sont les milieux karstiques, ou qui sont, du coup, très poreux et où, forcément, ils font passer toutes les substances polluantes directement dans l'eau, puisque les milieux karstiques sont creusés par l'eau et forment des grottes qui sont très appréciées des spéléos. Donc voilà, il se trouve que là, c'est à la fois un projet surdimensionné en termes de et récupération de matière organique et production de digesta. Et en plus, on dépend sur des lieux qui contaminent la nappe phréatique. Enfin, là, il n'y a rien qui va, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, il faut vraiment aller contre ce projet-là et agir, parce que finalement, les citoyens sont les premières victimes de ce genre de projet. Et il faut vraiment se sensibiliser et comprendre pourquoi on n'est pas là sans arrêt pour dire qu'on dit non à tout. Hein. C'est faux, bien au contraire. Mais il y a des choses quand même qui ne sont pas du tout réfléchies et qui font vraiment, vraiment empêcher de se mettre en place. Quoi.
Alors, est-ce que sur place, dans le Lot, il y a des relais pour batailler contre ce projet ?
Alors, il y a des fédérations régionales, hein, membres de France Nature Environnement. Après, il faut directement venir nous voir et puis on vous donnera des contacts en particulier. Après, en termes d'asso local, dans le Lot, on a une fédération, ça c'est sûr, donc FNE. Alors, j'ai pas le contact en tête, hein, mais bon, venez nous demander des infos, on en a plein.
D'accord. Et donc, en dehors aussi, donc de cette bataille-là, de la pollution lumineuse, est-ce qu'il y a d'autres choses aussi sur les fourneaux ?
Sur les fourneaux, mais oui, il y a des ateliers. Venez faire nos ateliers pour les citoyens. Donc, on fait, comme je disais tout à l'heure, des Repair Café. Donc, terme un peu... on boit du café, si vous voulez. Hein, mais le but du jeu, c'est aussi de réparer et ou de fabriquer des objets du quotidien pour éviter les déchets, entre autres. Donc, par exemple, là, on propose de fabriquer des nichoirs à oiseaux ou des mangeoires à oiseaux avec du bois récupéré. On a proposé aussi un Repair Café informatique pour réparer son ordinateur qui est un peu trop lent ou machin ou truc pour éviter d'en acheter un nouveau. On a fait un atelier aussi sac à vrac parce qu'on prône le zéro déchet, bien sûr. Donc, fabriquer son petit sac pour mettre ses graines et compagnie qu'on va acheter en vrac au commerce du coin. Et bientôt aussi, atelier fabriquer ses cosmétiques tout seul, et du coup, de façon écologique, avec des produits sains. Donc, voilà.
D'accord. Donc, tout un ensemble de choses. Alors, tu passes juste 35 heures, même moins, à faire tout ça.
Juste 35 heures, oui. Et des fois, un peu plus.
Est-ce qu'en dehors de ce domaine de l'écologie, tu as quand même, c'est à côté d'autres violons dingues, je ne sais pas, est-ce que tu as le temps d'aller au cinéma pour voir, bien sûr, de bons films, hein, pas pour aller consommer des pop-corn génétiquement modifiés.
Ben oui, j'essaye quand même, il faut bien avoir une vie, hein, même si l'environnement, c'est un peu ma vie quand même, parce que, bon, j'avoue, hein, être à fond là-dedans et avoir une grande passion en plus pour l'ornithologie et compagnie, mais quand même, j'ai une vie en dehors du travail, même si je salue mes collègues qui doivent m'écouter, que j'adore et que je vois beaucoup en dehors du travail, voilà.
D'accord, mais l'ornithologie, donc ça c'est encore une passion à côté de ce que tu fais à France Nature Environnement.
Oui, tout à fait, oui. En fait, moi, mes études, j'ai fait des études pour faire de la préservation, de la gestion de biodiversité. Et bon, il se trouve que les choses font qu'on est parfois amené sur de nouveaux chemins. Donc j'ai fait beaucoup d'inventaires naturalistes et compagnie avant. Et me voilà maintenant, en fait, je ne fais plus d'inventaire, mais je fais encore parfois du bénévolat pour l'association Nature Midi-Pyrénées. De temps en temps, il y a des groupes bénévoles dans chaque, on va dire, groupe naturaliste. Donc, il y a mammifères, ornithologie, herpétologie, etc. Et donc, je vous invite aussi, si vous êtes fan de nature et que vous avez envie d'aller faire plein de balades et de découvrir plein de jolies espèces de notre région, d'aller au groupe bénévole Nature Midi-Pyrénées aussi, qui est membre de France Nature Environnement Midi-Pyrénées.
bien sûr, plein de belles choses. Et en plus, je vois que tu es passionné aussi, mais tout comme Olivier, et c'est tant mieux.
Ah oui, tout à fait. De toute façon, quand on commence à toucher un peu l'environnement, il vaut mieux être passionné et être sacrément accroché, parce que des fois, on perd un peu la foi en ce qui se passe, en l'espèce humaine, en nos dirigeants. Et ça fait parfois un peu mal et on a vraiment besoin de se soutenir tous entre nous et de se dire que le combat, il continue, qu'il y a vraiment besoin qu'on agisse. Parce que voilà, c'est notre milieu de vie. Hein. C'est pas un truc qui existe à Tatooine sur une autre planète. Hein. Là, non, on parle vraiment de nous aujourd'hui et de notre demain aussi.
Tout à fait. Et si demain, justement, si demain nous mettions dehors la finance, le grand capitalisme, pour nous consacrer à l'humanité, à la coopération contre la compétition, bah, ça serait peut-être pas mal et les abeilles s'en sortiraient, Olivier.
Oui, il serait temps qu'on prenne effectivement la mesure de la dégradation de notre environnement et puis qu'on prenne des mesures pour vraiment encadrer la protection de l'environnement, car effectivement, il y a aujourd'hui des pertes qui sont considérables pour les abeilles et les actions ne sont pas au rendez-vous. Parce que même si on a une interdiction des insecticides néonicotinoïdes, ça, c'est une action que nous avons menée, mais on ne comprend pas comment le gouvernement français, ou que ce soit au niveau après européen, il n'y ait pas une grille d'autorisation des molécules qui soit bien plus restrictive et qui ne permette pas d'autoriser des molécules qui soient plus toxiques que le DDT, le fameux agent orange, qui a pourtant été interdit de par sa toxicité en 1972 au moment de la création du ministère de l'Environnement. Et aujourd'hui, les molécules qui sont autorisées sont toutes, pour celles qui nous concernent, plus puissantes que le DDT, comme par exemple les néonicotinoïdes qui en sont 10 000 fois plus puissantes que le DDT, ou encore le fipronil qui est 5 000 fois plus puissant, qui était utilisé notamment sur les œufs et encore sur les colliers antipuces de nos chats et de nos chiens. Donc c'est un véritable perturbateur endocrinien. Des études ont démontré le caractère de perturbateur endocrinien de ces molécules. Le lien directement avec la maladie de Parkinson a été acté par le gouvernement français pour les agriculteurs en 2012. Et il est fort à parier que dans quelques années, eh bien, le lien sera officiel avec la maladie d'Alzheimer et avec la fertilité et avec les crises cardiaques, puisque ce sont les liens directs qui ont été prouvés par les scientifiques travaillant sur l'abeille, pour ce qui concerne l'abeille.
Merci Émilie, merci Olivier d'avoir participé à cette émission. Et si demain, rediffusion demain matin 9h, Jean-Loup, c'est bon? Allez, et sinon vous aurez le podcast sur www.espritoccitanie.fr. Merci Jean-Loup Arzac-Fraisse pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous dès vendredi matin pour l'autre émission Traversée en direct entre 10h et midi. L'indicatif est signé de Damien Moreto. Bye bye, à très vite.